Bonjour à tous, je suis Thomas Louis et bienvenue sur La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux qui la font. Et cette semaine, je reçois Laure Limonji, écrivaine et professeure de création littéraire. Le 28 août, Laure a publié « On ne peut pas tenir la mer entre ses mains » aux éditions Grasset, un roman familial dont l'action se tient en Corse, l'île de naissance de l'autrice. Après 10 romans, elle se décide à parler de son île de beauté à travers ce secret de famille, ce silence qui obsède et conditionne tous les échanges de ce cercle dont Huma, la petite dernière, est prise au piège. Sur fond de naissance du FLNC, Laure Limonji nous raconte cette histoire et aujourd'hui avec elle on parle de la notion de secret de famille, de l'importance des origines, de la Corse bien sûr, mais aussi de son métier de professeur de création littéraire et de sa vision du métier d'écrivain. Bonne écoute! Salut Laure!
Salut.
C'est ton 11e roman. Tu as déjà écrit sur Elvis Presley, tu as écrit sur le rôle de la femme, tu as écrit sur ce qu'on appelle la migraine du suicide. Et pourtant, pour les gens qui te connaissent et qui te suivent, on sait que la Corse est un vrai sujet pour toi déjà parce que tu es né. Mais on sent ce lien très très fort que tu entretiens avec elle, devant l'importance d'un tel sujet, tu attendais quoi pour en parler?
C'est une excellente question que je me pose depuis à peu près 20 ans.
Okay.
En fait, je pense que justement, face à des sujets aussi importants, on peut être un petit peu sidéré et on peut ressentir le besoin, ce qui a été mon cas, de prendre le temps. De trouver la forme, de trouver la langue, de trouver la juste distance. Dans mon cas, et c'est le cas d'ailleurs de beaucoup de gens et de créateurs qui sont corses et qui souhaitent aborder ce territoire, il y a à la fois effectivement le territoire insulaire de la Corse qui en soi-même est impressionnant, avec plein de clichés, etc.
Les particuliers, oui, du coup.
Mais aussi la famille, bien évidemment. Ouais. Quand on y est né, quand on a été enfant là-bas, adolescent, voilà, c'est forcément de multiples problématiques qui se conjuguent pour faire en sorte que ça soit vraiment compliqué. De sorte qu'à mon sens, il était vraiment important, même si j'avais vraiment l'urgence d'écrire ce livre il y a très longtemps, il a vraiment été important pour moi d'attendre 20 ans pour le faire.
Ok. Je te dis trois mots qui qualifient ton livre selon moi et tu me dis ce qui manque, ok?
Ok, j'ai essayé.
Alors, secret, héritage familial et déracinement exil. Qu'est-ce qui pourrait manquer?
Il pourrait pour bien décrire. Y avoir amour.
Amour.
Parce que y a quand même une passion des parents de la petite Huma Benedetti, donc qui est un petit peu le regard, je dirais, qui focalise le livre. Leur amour à eux, qui est vraiment, je pense, assez central et qui sauve quand même pas mal de choses de la violence qui, par ailleurs, est dans cette famille. Ça pourrait être aussi l'autre mot. Enfin, comme par hasard, c'est pas celui que j'ai dit en premier.
Ok, c'est tout.
Il y aurait tellement d'autres choses.
Ah oui, j'imagine, bien sûr. Mais...
Peut-être la question de la mer, justement, qui est dans le titre, de cet élément liquide. Alors, je l'ai cité dans le titre parce que pour moi, c'est à la fois cet élément de fascination, mais aussi qui signe l'enfermement. C'est l'ambivalence, en fait. Peut-être qu'ambivalence, ça serait un mot aussi très, très juste parce que voilà, la mer, c'est ça. C'est à la fois quelque chose qu'on ne peut pas s'empêcher de regarder sans cesse quand on est insulaire et puis qui fait que si on a envie de partir sur un coup de tête, on est obligé d'attendre un bateau ou un avion. Et puis, évidemment, on entend le personnage de la mère dans ce titre également.
Ok. Alors, dans le roman, il y a une espèce de silence qui annihile, qui neutralise toute conversation. Ce qu'on pourra apparenter à un secret que tu décris très bien, page 85. Je vais lire l'extrait, il est très court. Le secret est lourd, beaucoup trop lourd. Il pèse dans chaque regard, chaque expression. Rien n'est jamais neutre, le secret transforme la veille en cauchemar et abolit le rêve, le secret change les minutes en siècles inquiétants, il prend toute la place, l'absence est une gangrène, elle envahit tout. Alors, le secret c'est un ressort romanesque fort, mais le secret de famille, ça a quoi de différent?
Alors, je pense que pour parler de celui-ci en particulier... C'est un peu ce qui vient d'apparaître dans l'extrait que tu as lu. Hein. C'est cette espèce d'impact assez paradoxal. On se dit qu'a priori, le secret, c'est du vide. Alors en fait, ça envahit tout. Voilà. Ça rend tout, ça change la couleur des choses, ça change le sens des mots, ça les écrase. Donc voilà, ce secret de famille-là, la différence aussi, c'est que forcément, un secret de famille, pour la dernière née encore, qui est donc le regard principal, Yuma Benedetti, bah, elle est née avec, quoi. Elle est née avec, elle est élevée avec, et elle le découvre très tard.
Avec des gens qui lui sont proches.
Voilà, c'est sa famille, elle le découvre à la mort de sa mère, donc déjà adulte. Donc finalement, quand elle est adulte et qu'elle découvre ce secret, elle a l'impression d'avoir à réécrire totalement son histoire avec d'autres mots.
Ouais.
Ça change le tout, ça change les phrases, le vocabulaire des choses. Et pour un écrivain, en tout cas pour moi, ça donne la nécessité de s'inventer une langue pour y survivre. C'est la seule solution, puisque forcément, cet impact-là est passé par la médiation du langage.
De fait, ouais. Ok. En quoi, justement, on en a un peu parlé là maintenant, en quoi, selon toi, connaître et maîtriser ses origines pourrait définir notre être et surtout notre évolution en tant qu'individu dans la société, en tant qu'animal politique, comme disait Aristote?
Alors, connaître et maîtriser ses origines...
C'est un vaste programme,
oui,
je te l'accorde.
Oui, c'est un très vaste programme. Alors, connaître ses origines, je pense que c'est important. Après, je ne suis pas sûre qu'on puisse vraiment maîtriser les choses. C'est un peu toute la magie.
Dans maîtriser, j'entendais... ouais, c'est presque un synonyme de connaître, en fait. Vraiment assimiler
oui.
un petit peu tout...
Bah, je pense que le procédé de la connaissance de soi-même et des choses qui nous entourent est évidemment fondamental.
Ouais.
Après, moi, je lis ça parce qu'en fait, je suis en train de travailler dessus pour un livre qui est sur la question de l'identité, qui est évidemment très
oui,
proche.
Oui, c'est lié.
Origine, identité. Et justement, j'ai fait tout un parcours par rapport à cette question. Dans
D'accord.
le sens où je pense qu'il faut, il faut envisager vraiment l'identité comme un multiple. Voilà, comme des choses qui se superposent. C'est Tristan Garcia qui a une très belle image dans nous. Il parle de calque. Et que selon les moments de sa vie, on prend une identité, on en prend une autre. Et qu'il ne faut pas non plus se crisper sur le fait d'avoir à être fidèle à une identité. Moi, je suis corse, par exemple, et ça m'agace énormément si on essaye de me mettre des certificats de corsitude. Je suis une femme, voilà. Enfin, il y a plein d'identités de féministes, corses, je ne sais pas, de gauche, etc., qui peuvent se superposer. Et c'est très important de les accepter en tant que telles et puis d'accepter aussi que, selon sa vie, elles puissent être... mouvante et il puisse y en avoir d'autres qui existent.
Ouais. Et en parlant de ça justement, est-ce que tu es fière d'être corse ou c'est juste un fait?
C'est ce qu'on dit souvent, je dois un esso fière.
Ouais.
Un esso gourse, un esso fière.
Ok.
Bon, la fierté chez nous c'est quand même un peu important. Donc
c'est aussi pour ça que je te pose la question.
Voilà, j'aurais du mal à pas... Je sais pas si alors, du coup, ce mot fière est tellement connoté. En tout cas, c'est un point de tendresse ineffable chez moi d'être corse. C'est une terre que j'aime d'un amour tendre, quoi. Ça touche vraiment quelque chose de très profond et de très ouvert chez moi. Donc, je suis fière pour ça, parce que pour moi, ce rapport à la Corse... Parce que c'est pas un rapport... comment dire? C'est pas un rapport gadget. C'est une terre qui souffre et c'est une terre qui a souffert.
Ouais.
C'est pas une sorte d'appel au drapeau de conquérant, au contraire. Pour moi, la fierté d'être corse, c'est de savoir que dans mon cœur et dans ce que je fais, j'essaie de ménager la beauté de cette culture et d'y participer. Et je pense que c'est pour ça que c'est un attachement aussi profond pour beaucoup de gens.
Ouais, j'imagine aussi d'ailleurs. Lorsqu'elle est adulte, Yuma Benedetti, c'est comme ça
Bravo.
Qu'on prononce, okay. Elle revient en Corse, dans la maison de famille. Quelle est la place de la maison de famille, justement, dans ce livre? C'est un refuge, parce que je crois savoir que tu l'as presque développé comme un personnage à part entière.
Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, cette maison de famille, c'est la chose qui est vraiment la plus ressemblante de la réalité, et puisque j'ai gardé même le nom. C'est vraiment le nom, l'adresse,
okay.
Là, pour le
elle
coup.
Est perchée,
elle est perchée sur un rocher au-dessus de la gare, à Bastia... dans le quartier Biagini. Pour moi, c'est vraiment un espace... Je trouve que les maisons, de façon, c'est absolument fascinant. Et surtout les maisons de famille. Ce sont des organismes quasiment à part entière. D'ailleurs, quand tu es écrivain et que tu vas parfois en résidence, tu vas dans des maisons... Ah, j'ai dit raisons de famille, c'est pas mal.
Dis donc.
C'est un beau lapsus, dans des maisons de famille. Et je suis toujours fascinée d'observer la manière dont les gens prennent soin de leur maison ou pas. Justement, les pièces
qui
sont négligées. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment, l'arrière-grand-mère qui a fait ci, la grand-mère qui a fait ça, etc. Donc, je sais pas, pour moi, c'est quasiment des organismes à part entière. Et c'est vrai que je me suis rendu compte en écrivant ce livre que cette maison avait vraiment une place dans mon imaginaire... fondamentale et donc une importance quasiment de personnage, mais je dirais quasiment de personnage statique et témoin. C'est pour ça qu'au début il y a cette scène avec l'escalier de marbre,
ouais.
qui dans les dessins du marbre, on peut y lire plein d'histoires, comme le font souvent les enfants. Et pour moi, c'est une maison, et cette maison-là en particulier, c'est ça, c'est l'espèce de témoin muet de ce qui se passe. Et puis par ailleurs, c'est vrai que j'en rêve très souvent. Donc je pense que c'est
tu en rêves très souvent.
Ouais. C'est vraiment avec plein de elle change parfois un petit peu de forme ou de lieu d'ailleurs, des fois elle est à Paris et puis après elle retourne à Bastia, enfin voilà. Mais en tout cas, c'est preuve que cet espace qui est peut-être aussi d'ailleurs le premier espace de l'écriture hein, quand t'es gamin, tu vois, c'est vraiment un refuge et un espace qui pour moi est resté fondamental, ouais.
OK. Et que tu as bien décrit ici. Alors Yuma, la petite dernière de la famille, a beaucoup de similitudes avec toi. Un exemple parmi tant d'autres, mais qui est assez représentatif, elle est née en 1976, l'année de la création du FLNC, le Front de Libération Nationale Corse. C'est donc une période assez charnière pour dans l'histoire de l'île. Si tu as décidé de la faire exister à la même époque que toi, est-ce que c'est par souci de véracité, de ne pas raconter ce que tu n'as pas vécu, ou c'est uniquement pour témoigner à visage couvert finalement ?
Dans ce livre-là, en tout cas, j'avais envie de raconter cette histoire-là. Je dis ça parce que maintenant que j'ai débloqué le livre Corse, il y en a d'autres.
On est parti.
Voilà. Et notamment un sur des générations précédentes, parce qu'il y a aussi une autre époque qui me fascine, c'est l'époque où il y a plein de Méditerranéens, des Italiens, des Corses qui sont partis au Nouveau Monde, dans les Amériques, faire fortune, parce que voilà, donc c'est aussi une période qui m'intéresse, donc ça ne sera pas la mienne, forcément. Mais là, En discutant avec pas mal de gens de mon âge, enfin en tout cas d'une génération proche, j'ai remarqué que c'était vraiment bizarre d'avoir vécu ça, d'avoir vécu, surtout quand on est né cette année-là, donc une petite enfance comme ça avec une ambiance extrêmement explosive, assez joyeuse d'ailleurs, je dois dire quand même, une sorte de, l'impression que les choses peuvent vraiment changer, en tout cas on agit, enfin voilà, puis quand on est tout petit, de toute façon, on ne comprend pas les enjeux.
Oui, en plus, mais justement, c'est intéressant.
Voilà, on sent les ambiances, on sent, il y a la poudre, les nuits bleues, etc. Et puis après, le problème, c'est effectivement cette adolescence dans les années 90, qui est une autre période des collusions nationalistes beaucoup plus fâcheuses, qui est une période de règlement de compte permanente, de meurtres, de drames, où on est tous englués par ça, même quand on n'y participe pas, où c'est vraiment parce qu'on connaît forcément toujours quelqu'un qui passait à deux doigts, qui était sur une scène de crime, voire même qui s'est fait descendre, enfin voilà. Donc, j'avais envie de retranscrire cette période-là. Et puis, de toute façon, comme je disais, c'est aussi lié à l'histoire de ce secret qui me semblait... Et ce secret s'est déroulé à cette période-là.
Et c'est entre autres pour bien représenter cette période que tu n'as pas utilisé le jeu pour parler la première personne.
En fait, un de mes soucis... Je voulais pas. Moi, j'aime pas le moi, le jeu.
Parce que depuis tout à l'heure, tu dis que Yuma, c'est le regard fondamental, etc. Mais en l'occurrence, c'est pas elle qui parle.
Non. Alors moi, j'ai un problème avec le. Déjà, ça m'intéresse pas de raconter mon histoire. Il y a un côté témoignage, mais c'est pas mon jeu, mon moi qui se. Qui est dans une sorte de surabondance. Le moi est une porte battante, hein, comme dirait un célèbre bouddhiste. Et puis aussi, je voulais pas non plus d'une histoire manichéenne. C'est-à-dire qu'en fait, comme c'est une histoire assez dure, je voulais pas qu'on puisse, la petite Yuma, oh là là, la pauvre petite, que ce soit dans une sorte de pathos où elle aurait un beau rôle et qu'il y ait des personnages hyper négatifs. Je me suis attachée, c'est pour ça que la structure du livre est aussi en littérature, en analepse et prolepse ou en flashback, flash-forward, pour que les personnages qui sont, dont on peut dire qu'ils sont carrément négatifs, on ait un éclairage sur leur passé et que peut-être ce passé puisse. Un petit peu nuancer ce portrait. Donc cette troisième personne permet de pas prendre parti. Et puis je voulais aussi éviter un truc peut-être un peu plus... j'ai aussi beaucoup travaillé, j'ai changé un peu... J'allais dire changé d'écriture, en fait je change à chaque livre, donc c'est un peu ridicule de le dire comme ça. Mais dans ce livre-là, je voulais... Il y a des phrases beaucoup plus longues que ce que j'ai fait avant, mais je voulais éviter le côté idiolecte du personnage un peu trop... Enfin, je pense que si j'étais partie en première personne, j'aurais fait quelque chose de beaucoup plus baroque, contemporain, tandis que j'agonise, enfin voilà, ce genre de choses. Et je voulais un peu me censurer par rapport à ça. Et être plus dans la... Alors, c'est pas de la polyphonie, évidemment, parce que c'est une troisième personne, mais en tout cas, être plus dans... voir plus de personnages qu'une seule voix.
Ouais, donner une espèce de panorama, quoi.
Ouais.
Alors, dans le roman, Yuma, elle dit, je cite, « Comme si raconter allait guérir quelque chose que je ne voulais pas guérir. » Est-ce que c'est ton cas?
Oh là là, on va finir en psychanalyse. Ouais, c'est clair, mais j'ai pas de cash là. Est-ce que je dois répondre honnêtement à cette question? Oui,
ça dépend.
C'est une fausse question. Oui, je suis clairement dans le genre de. Je crois que de toute façon, quand on a un rapport, quand il y a des types de souffrances comme ça qui procèdent d'un, enfin, avec lesquelles on grandit.
Du coup,
c'est très difficile de, comment dire, de passer à l'ordinaire sans souffrance. Quoi. Ouais. C'est un peu une addiction, hein, comme plein de choses. Le travail, la salle de sport, la cigarette, l'héroïne, c'est pas cool. Enfin, sauf le sport.
C'est pas cool. Voilà, le reste,
voilà. Mais il y a des choses qui font du bien, qui font du mal en même temps.
Ouais.
Et je crois que quand il y a des personnes proches de sa famille, en tout cas, qui ont des comportements pas forcément positifs, après, comme ça va avec l'amour familial, voilà, on a du mal à s'en
faire. Oui, c'est ambivalent.
Puis après, c'est aussi un mouvement qui est plus général sur plein d'autres choses de la vie, quoi.
Oui, après. alors, c'est aussi un roman sur le processus de révolution, sur la violence politique aussi. Est-ce qu'il y a une dimension historique de ta part, sans aller jusqu'à parler de roman historique, évidemment, mais est-ce que tu as voulu montrer l'histoire, précisément? Parce que c'est quand même ton premier roman corse et on est quand même sur quelque chose d'assez concret.
Oui, tout à fait. Alors, oui et non. Disons que le cadrage historique est juste, évidemment, mais je ne voulais pas que ce soit trop lourd. Parce que clairement, ce que je voulais montrer, c'est que cette famille, elle est totalement bouffée par sa propre histoire. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, il aurait pu se passer plein de choses. Enfin, limite, ils traversent un petit peu ça en spectateur, mais ils sont beaucoup trop obnubilés par leur propre drame personnel. Ça efface tout ce qui se passe autour. Donc à la fois, évidemment, ils le vivent, Yuma, voilà, quand elle est après adolescente, puis adulte, évidemment, mais ça reste quand même... je voulais éviter aussi... ça, c'est aussi un problème quand on parle de la Corse, tout le côté un peu cliché, le côté...
Bien
voilà.
Sûr, ouais.
Pour moi, c'était vraiment cette famille prise dans ce cadre-là. Donc, le cadre historique est juste, mais il n'a pas été excessivement développé. Je suis en train de travailler à un autre livre qui le fera un peu plus, mais justement parce que l'enjeu sera davantage sur ce cadre-là.
Ok. On en a un petit peu parlé tout à l'heure avec le terme mère, mais le titre, comment... c'est toujours intéressant, ça, quand on sort un nouveau livre. Le titre, comment il s'est imposé ou comment il s'est réfléchi, peut-être?
Alors, le titre, c'est toujours un grand truc.
Qui est « On ne peut pas tenir la mer entre ses mains », pour rappel.
Alors, le titre, c'est toujours un grand truc. Dans mon cas, il y a deux cas de figure. Soit il arrive tout de suite, ouais. Et là, c'est cool, parce que vraiment, c'est une sorte de cadeau de la vie.
Un peu inespéré.
Voilà, on ne sait pas. Soit on rame vraiment terriblement, on fait des listes avec son éditrice ou son éditeur.
Parce que c'est ça, il y a toujours la patte de l'éditeur, encore.
Alors,
une
fois. Alors oui, un titre, voilà, l'éditeur donne évidemment son mot à dire là-dessus. En général, c'est en bonne entente avec l'auteur, mais voilà, en tout cas, l'éditeur peut dire « Ah ben non, c'est pas très... » Parfois, on n'est pas forcément le meilleur juge de son propre titre, hein, d'ailleurs.
Oui, et puis il y a des critères qu'eux, ils prennent en compte, que
exactement.
Nous, pas forcément,
couverture,
que vous, pas forcément.
Titre, voilà. Enfin, moi, je suis aussi une formation d'éditrice, donc j'ai tendance à y penser, ouais. mais c'est vrai. Et alors, dans ce cas-là, c'est un cadeau du matin, quoi, qui est arrivé.
Comme ça, la un bonne, petit café, et puis...
Voilà, un petit café, il arrive tout de suite, ce qui était la bonne solution. Après, il y a eu d'autres titres de travail, mais en tout cas, c'est celui-là qui s'est imposé.
Ok. Et au-delà du terme mère, est-ce qu'il y a des mots-clés dans ce titre plus particulier, genre peut-être le pronom « on », je sais pas.
Oui, le fait de tenir justement la difficulté à saisir, comme je disais, cette matière mouvante qu'est la mer, et peut-être on pourrait aller plus loin, enfin là je réfléchis à voix haute, en disant voilà, c'est peut-être cette difficulté aussi à un moment à se saisir de cette histoire. Qui est racontée par petites touches, ça a été aussi, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai mis du temps à trouver le moyen d'écrire ce livre, c'est que je voulais pas en faire une sorte de dévoiler le secret de manière un petit peu grandiloquente ou un peu avec mise en scène, voilà, disons avec mise en scène. L'idée c'était qu'il apparaisse dans sa simplicité un peu terrible et surtout dans son humanité. Et donc voilà, sur toutes ces choses impalpables, toutes ces choses qu'on ne peut pas vraiment saisir et qui apparaissent, c'est peut-être aussi ça qu'il y a dans le titre.
Ok. Qui est-ce que tu aurais aimé voir préfacer cet ouvrage?
Oh là là, oh mon Dieu, quelle question. Non, je dis ça parce qu'en fait, on pense pas forcément à des préfaces pour des.
Bah oui, en fait, moi, je sais même pas pourquoi j'ai pensé à cette question,
pour
mais.
Pour des livres de fiction, je veux dire. Alors, qui pourrait préfacer? Écoute, c'est, alors ça, c'est une.
C'est un peu une excuse la préface, hein, mais qui aurais-tu aimé? Ouais, je vais préfacer, c'est très bien comme terme, mais lié à ce livre en tout cas. Tu vas voir lié à ce livre.
Un auteur, donc forcément.
Bah non.
Non, pas forcément. C'est compliqué.
On peut nexter si tu veux.
Ouais, oui, parce que là parce que je pense à tous les gens que je connais, des gens que j'ai oubliés. Non, ou alors, ouais, non, si vraiment il faut faire un truc prétentieux, Gilles Deleuze.
Voilà. On l'embrasse.
Voilà. Comme ça, c'est impossible et c'est prétentieux.
Super.
C'est parfait. C'est ouais, parfait. C'est
très, très bonne idée. Tu connais la littérature corse? Tu la connais bien?
Oui, enfin, ouais. Je pense pas assez, beaucoup moins que certains spécialistes, bien évidemment.
Ça ressemble à quoi, selon toi?
Bon, bah, évidemment, il n'y a pas une littérature.
Ouais, ouais. Mais est-ce que tu as des titres, des références?
Bah, évidemment, je connais, y a Marie Souzine, Marco Biancarelli, Jérôme Ferrari.
Ah, bah oui. Voilà, c'est vrai, prix Goncourt 2000.
Bon, évidemment, j'oublie énormément d'auteurs. Non, c'est une terre qui a quand même pas mal de dynamisme, ouais, littéraire, je trouve. Oui, oui. Après, il y a des gens. Alors, de ceux que j'ai cités, il y a que Marco qui écrit en langue corse. Il y a aussi cette question.
Eh ben oui.
Voilà. Moi, je lis pas très bien. Enfin, c'est bien quand c'est bilingue, ça m'aide.
C'est en tout cas oui.
Parce que ça, c'est toute la question d'écrire dans. Il y a eu vraiment une rupture de transmission de la langue corse. Et c'est vrai que pour écrire dans une langue, il faut quand même il faut que ça soit sa langue maternelle ou en tout cas un choix formel particulier d'écrire,
oui,
dans
Beckett,
sa langue
comme...
qui ne serait pas une langue maternelle. Enfin, voilà, il faut vraiment avoir une maîtrise de cette langue. Et même en tant que lecteur, je pense que si je lis Marco Biancarelli en corse, ouais, qui en plus est du sud de la Corse alors que moi je suis du nord, je ne vais pas du tout avoir la subtilité. Enfin, je vais pas me dire, tiens, il a choisi cet adjectif-là parce que... Okay. Parce que j'aurais pas la culture aussi de savoir où est-ce qu'il l'a lu ou pourquoi il l'a mis à cet endroit. Mais je pense qu'il y a beaucoup de dynamisme en ce moment sur pour le développement, la défense ouais, et le développement de la culture corse et de la langue. Donc j'ose espérer que dans les années à venir et les générations à venir, il y aura beaucoup plus de textes et beaucoup plus d'occasions de les lire en langue corse.
Ok. Alors, tout autre sujet. Tu enseignes également la création littéraire à l'Université du Havre.
À l'école d'art du Havre. Mais, pardon, c'est un master qui est cohabilité entre l'école d'art et l'université.
D'ailleurs. Ok. Dis-le, c'est à quoi?
Cohabilité, enfin, c'est
avec
un master
l'école...
qui est entre les deux, entre les deux institutions, voilà, l'école d'art du Havre, okay, et l'université.
Ok. Depuis quelques années maintenant, c'est le premier master en France qui enseigne la création littéraire. Il a été créé en 2012. Alors, en quoi ça consiste et comment on devient écrivain si tel est le but de la formation?
Alors en fait c'est un master, donc c'est pendant 2 ans,
ouais,
donc tout simplement on s'inscrit dans un master avec après une licence ou après un DNA si on vient d'une école d'art. Pendant 2 ans il y a des cours. Alors justement j'ai incité tout de suite parce que la spécificité c'est vraiment les deux cultures et de l'école,
ouais,
d'art et de l'université, c'est-à-dire qu'à l'université il y a des cours qui sont plus classiques de lettres et à l'école d'art ce sont tous les cours pratiques, des ateliers,
oui, okay, vraiment
des séminaires, énormément de ce qu'on appelle en école d'art workshop. Alors c'est pas par goût immodéré des mots en anglais, mais les ateliers pour nous ça désigne les salles, alors c'est un peu compliqué, mais enfin un workshop,
d'accord,
c'est un atelier avec un praticien, là en l'occurrence de l'écriture, pendant 2 à 3 jours, plutôt 3 jours en général d'ailleurs.
Ouais.
Donc il y a pas mal par an, il y a des masterclass, donc il y a beaucoup de rencontres avec des écrivains, des écritures différentes, mais aussi des gens de théâtre, de la performance, de la musique, mais qui écrivent, enfin qui utilisent le texte, plein de choses différentes. Et évidemment, un suivi, chaque étudiant est suivi par un prof, ce qu'on appelle un prof référent, donc qui est un écrivain.
D'accord.
Un praticien ou une praticienne de l'écriture, donc autrice ou auteur, et donc mène ce qu'on appelle un projet littéraire, pour ne pas parler de manuscrit encore,
okay,
pendant 2 ans. Donc les étudiants arrivent, on leur demande vraiment un projet, d'arriver avec un projet, même s'il change évidemment, mais de montrer qu'ils sont en chemin, qu'ils ont commencé quelque chose.
En guise de mémoire dans le milieu
étudiant.
Voilà,
c'est pas le mémoire, c'est le projet littéraire. On a remplacé mémoire par le projet littéraire et on les aide à accomplir ce chemin de projet littéraire pendant 2 ans. Alors, il y en a pas mal qui deviennent écrivains, puisqu'il y en a eu, alors je pense même que je ne vais pas avoir le compte, presque une dizaine maintenant qui sont publiés. Ouais. Et là, il y a Guillaume Sorensen hein, qui vient de sortir Le Planisphère Lipski aux éditions de l'Olivier. Ça sort aujourd'hui, d'ailleurs.
Aujourd'hui, nous sommes le 22 août.
Nous sommes le 22 août, voilà. Donc, ça sort aujourd'hui. Il y a pas mal de deuxièmes livres, d'ailleurs, qui sont en train de s'écrire.
Trop bien.
Pour moi, c'est important parce que
ça,
c'est ce que je dis toujours au diplôme. Voilà, je dis attention, là, c'était la partie facile. Maintenant, on commence dans le dur. Donc, voilà. Évidemment, il y a des écrivains qui en sortent puisqu'il y a beaucoup de gens qui arrivent avec cette ambition. Mais, c'est pas... j'aimerais éviter le côté premier de cordée... compétition, enfin c'est pas du tout l'esprit.
Ouais, c'est assez bon enfant.
Enfin, bon enfant, on bosse comme dans les malades, je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est, on est tous dans le faire, quoi. On est tous dans le boulot. Aussi bien les écrivains, je bosse avec plein de gens, donc je vais en oublier, mais il y a Nicole Caligaris, Sylvain Prudhomme, Fred Forté, Clémentine Beauvais, Christophe Manon, Sonia Hampton. Et je vais en oublier quand même, je suis sûre. Bref, on est tous dans le bateau et on est dans le même bateau avec eux, même si on a 15-20 ans d'expérience de plus. De toute façon, chaque livre, c'est aussi quelque part un premier livre. Donc voilà, à la fois, il bénéficie de notre expérience et en même temps, on évite une sorte évidemment, de transmission verticale qui ne serait pas très opportune. Et je dois dire que c'est... les étudiants ont l'air de bien aimer parce que franchement, il y a toujours des très bonnes ambiances.
Puis si le master existe encore, c'est qu'il y a, c'est qu'il y a des gens qui s'y inscrivent.
Ça marche bien. Ouais, on reçoit énormément de dossiers. Et puis pour nous, les enseignants, je dois dire que c'est à la fois... c'est vraiment très, très agréable, très valorisant. C'est totalement épuisant, mais totalement génial. Donc, voilà.
Donc, trop bien.
Voilà.
Je vais juste mettre les deux pieds dans le plat, comme on dit. Mais c'est intéressant d'avoir le regard d'une écrivaine et professeur, en l'occurrence. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'enseigner la création littéraire ? Ce n'est pas une question axée du tout de ma part, parce que justement, je crois que j'ai un avis nuancé sur la question. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin ?
En fait, on n'enseigne pas des recettes. Hein. Ouais. On ne dit pas, alors là, tu vas commencer ton Inkipit.
Mais c'est intéressant,
du coup. Voilà. C'est pas un truc genre creative writing low cost à l'américaine. Enfin, low cost, non, high cost, au contraire, à l'américaine. On accompagne vraiment des gestes. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est totalement passionnant. Moi, c'est ça qui me fait kiffer. Ouais. C'est qu'en fait, chaque étudiant que je suis, c'est une nouvelle aventure. Je suis obligée de réinventer les méthodes. Je suis obligée de lire pour lui ou pour elle. Pour vraiment que cet accompagnement, jamais je vais donner des trucs pré-mâchés. Je vais faire en sorte de dire, c'est un peu comme du billard, quoi. Je mets un caillou là, en essayant de voir où est-ce que le chemin de l'étudiant ou de l'étudiante va le ou la conduire. C'est pas du tout directif. Alors, est-ce qu'on en a besoin ? Moi, je pense que là, on en a besoin, c'est que c'est quand même bien. Enfin, c'est un monde quand même. C'est un métier très solitaire. C'est quand même très dur l'écriture. Franchement, pour être honnête, on est dans un monde où personne n'en a rien à faire. Enfin, les gens adorent et trouvent ça chic, mais en gros, rien ne favorise les métiers de création. Enfin, il faut bosser comme un malade et on est ultra sous-payé. Il faut être totalement masochiste. Donc, franchement. Hein. Mais c'est comme l'histoire de la douleur dont on ne peut pas se passer. Moi, je sais que je ne peux pas respirer si j'écris pas, mais en toute sincérité, c'est vraiment une assaise. Donc, c'est pas plus mal d'être accompagné, justement, d'apprendre à cerner ses méthodes de travail, ses rythmes de travail, sa motivation, savoir est-ce qu'on a vraiment envie de faire
ça. Pour le coup, c'est un vrai pilier.
Voilà, quel autre travail on fait à côté ou est-ce que tout de suite on fait un best-seller. Et puis moi, donc, je suis quand même aussi éditrice à la base.
Ouais.
Je travaillais pendant 15 ans dans l'édition, donc je suis habituée à l'accompagnement d'auteurs.
Oui, il y a des réflexes.
Et pour moi, ce travail au sein du master, il y a quand même des choses très très similaires. Avec un luxe supplémentaire qui est de travailler 2 ans avec quelqu'un et d'être un petit peu plus en amont du texte, évidemment. Mais le travail que fait un éditeur, en tout cas moi quand je travaillais chez Lorly avec mes auteurs, c'était aussi un travail d'accompagnement avec une grande présence, mais évidemment sur le temps de travail d'un texte, donc ça va de, je dirais, 3 mois à un an. Un an dans le cas le plus long. Mais c'est important de ne pas être seul. Et puis là où je trouve ça intéressant, c'est que donc dans ce monde quand même qui est assez complexe, ça crée aussi des communautés d'écriture. Ouais. Et donc finalement, c'est des promos.
Une émulation un peu.
Émulation des communautés d'écriture. Ils sont ensemble pendant 2 ans, ils restent en lien, ils font des projets ensemble. Donc là, il y en a pas mal qui seront révélés. On sera d'ailleurs au Festival Extra, je crois que c'est du 9 ou 10 au 15 septembre au Centre Pompidou. Le master sera présent, donc on pourra voir certaines de ces communautés littéraires d'étudiants
et de diplômés. En pleine action.
Voilà, donc c'est important pour ça, parce que ça fait du lien et que le monde littéraire en a aussi besoin.
Ok. Et dernière petite question, quels sont ton ou tes derniers coups de cœur culturels ? Cinéma, théâtre, musique, littérature ?
Oh là là, alors dans cinéma, musique, littérature... qu'est-ce que je suis en train de lire en fait, je suis en train de lire tellement de choses que pareillement, j'ai toujours la crainte de tout oublier. Bah, en toute sincérité, dans la rentrée littéraire, j'ai envie de lire mais un max de choses. Chez Grasset, franchement, c'est la joie. On a plein de choses.
Il y a très jolies choses, ouais, chez Grasset.
Donc, je ne vais pas citer tout le monde parce que je vais en oublier la moitié. Je vais me faire engueuler. Mais en tout cas, voilà, moi, j'adore toute la rentrée Grasset. En plus, on s'entend tous comme la roue en foire, donc c'est très drôle. Et partout, enfin voilà, il y a Hélène Gaudy chez Actes Sud, il y a Sylvain Patieu aussi qui sort un livre, il y a évidemment Sylvain Prudhomme qui bosse avec moi au Master du Havre. Voilà, j'ai beaucoup d'enthousiasme. J'ai commencé à lire le livre de Sorge Chalandon, qui est donc un camarade de chez Grasset.
Et qui est passé il y a quelques semaines, quelques épisodes ici.
Bah, que j'aime beaucoup. Grâce à qui d'ailleurs j'ai rencontré Emmanuel Mérieux qui fait une adaptation de Svetlana Alexievitch, qui sera je crois mi-septembre, je crois que c'est au bout du Nord, mais je suis pas sûre, mais voilà, au théâtre, vérifiez Emmanuel Mérieux, Alexievitch, vous devriez tomber dessus. Et donc c'est vrai que la lecture de Svetlana Alexievitch, qui date un petit peu maintenant, mais avait été très très importante pour moi. Et enfin là, ça se voit pas dans le livre dont on parle aujourd'hui, mais m'a ouvert de nouvelles perspectives de travail quant au fait d'utiliser de la matière brute, de la recomposer, bon, puis sa matière elle est quand même particulièrement impressionnante. Après, qui est-ce que j'avais dernièrement ? Bah, j'aime beaucoup Santiago Gamboa.
Ok.
Voilà, Rodrigo Fresan, j'avais lu aussi dernièrement. Enfin voilà, plein. Puis je suis dans Volodine parce que je suis en train de faire mes cours.
Eh ben, on l'embrasse, encore une fois.
Donc voilà.
Ok, eh ben, merci beaucoup. Ça s'appelle
merci à toi.
On ne peut pas tenir la mer entre ses mains. Ça sort le 28 août, c'est sorti le 28 août chez Grasset. Et c'était Laure Limonchi.
Merci.
Eh bien voilà, la quille s'est terminée pour cette semaine, mais on se retrouve la semaine prochaine, sans faute, avec un ou une nouvelle invitée. En attendant, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à commenter, voire à mettre 5 étoiles si vous écoutez sur Apple Podcast, et à le partager, c'est le plus important quand on débute. Merci beaucoup pour votre fidélité et à la semaine prochaine.